Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé les habitants de Noyon en février 1540, tout à la joie d'être autorisés par le roi François Ier et par l'Église à perpétuer la tradition de la fête des fous. Une fête héritée des ancestrales célébrations grecques et romaines, au cours de laquelle chacun se défoule, se grime, s'alcoolise et s'encanaille avant l'austère période du carême chrétien. Or, si la fête des fous concerne en priorité les adultes, elle possède une variance qui lui associe les enfants de chaque diocèse, la fête des innocents. Seconde partie, enfants et animaux entrent dans la danse. À Noyon, les enfants sont dans un état d'agitation fébrile. Aujourd'hui, costumés en habits de prêtre, ils vont pouvoir envahir la nef de la cathédrale Notre-Dame et le temps de la journée élire leur évêque. C'est la fête des innocents, une fête qui existe depuis aussi longtemps que la fête des fous. À Noyon, l'église se prête plutôt de bonne grâce à son déroulement. C'est l'heure! Les enfants entrent en procession dans la grande nef et après avoir revêtu comme il se doit les vêtements sacerdotaux, ils prennent place sur les hautes stalles. L'heure est solennelle. Un grand cierge brûle devant le grand autel. C'est Simon Troussel, un habitant de la ville, qui veille à ce que les cierges soient toujours allumés pendant toute la durée des fêtes devant la statue de Notre-Dame ou celle de Saint-Éloi. C'est le moment pour les enfants d'élire leur évêque. Les prétendants à l'investiture sont âgés de 3 à 8 ans. On a préparé pour le futur élu tous les ornements propres à sa nouvelle charge, mitre, chape, gants, anneau, crosse. Le tout est bien sûr beaucoup trop grand pour lui. La charge épiscopale conférée au petit évêque de Noyon s'accompagne d'attributions rigoureuses. Il va devoir célébrer les offices de toute la journée, bénir les fidèles, administrer son diocèse. La liturgie, l'ensemble des rites liés à la messe, sera adaptée pour cette joyeuse ribambelle selon le canon officiel, mais avec une mention particulière tout de même. Le Kyrie, prière la plus importante de la messe, est appelée pour la circonstance « farce du Kyrie ». Les lectures seront aussi aménagées pour l'occasion. Les épîtres, l'évangile, les psaumes seront farcis. À la lecture de l'épître farci, le petit prélat devra commencer en disant « Oyez les sens et la raison », ce qui en somme signifie « ouvrez bien vos oreilles ». Le nouvel élu, assis sur la cathèdre, le siège épiscopal, c'est le siège qui a donné le mot « cathédrale », préside la cérémonie tandis que les chanoines véritables occupent les fonctions habituellement réservées aux enfants de chœur. Les enfants rendent à l'élu du jour les honneurs et les respects dus à un véritable évêque. Ils observent le silence le plus absolu. Ils savent que tout débordement pourrait compromettre la fête l'année d'après. Chaque petit prélat est rémunéré pour son travail. Et à ce sujet, celui de Noyon est bien un peu inquiet, car il sait qu'à l'an, on a demandé la diminution de leur traitement. Le très jeune évêque du lieu n'a pas manqué de protester. « Nous tenons à faire notre fête selon la coutume » a-t-il rétorqué du haut de ses 7 ans. On s'alarme aussi un peu de l'habitude qu'a la ville de Noyon de proposer aux écoliers de la ville d'élire leur propre évêque. Cette concurrence est âprement discutée, d'autant que les écoliers, eux, ont le droit de jouer une comédie dans la cathédrale le jour même de la Saint-Nicolas. Ici même, il y a un siècle, en 1430, un évêque imposteur s'était présenté. L'enfant, élu à l'église Saint-Martin voisine, revendiquait sa charge et venait défier son concurrent. L'évêque légitime de Notre-Dame de Noyon avait porté plainte et l'on avait démis l'évêque litigieux. Depuis la nomination d'un certain Jean Houdin comme évêque des Innocents en 1416, le jeune évêque de Noyon est toujours secondé d'un coadjuteur chargé de l'aider dans ses fonctions. Comme l'évêque du jour, le coadjuteur est rétribué pour son office. Il est payé en blé et en argent sonnant et trébuchant. De même, les prêtres et chanoines en culottes courtes. Au fil des siècles, les privilèges accordés aux enfants ont connu d'ailleurs une certaine inflation et être désignés pour participer à la fête des innocents constitue une manne financière bienvenue pour leur famille. Même si ce privilège comporte quelques sacrifices, comme l'obligation, le jour de la fête, d'entrer dans la cathédrale en habit long ecclésiastique, un habit qu'il faut bien se procurer. Bien sûr, il arrive que certains innocents se laissent aller à quelques excès. Une année, le petit évêque, scandalisé qu'on ne nourrisse pas davantage son illustre personne, a sommé son officiant adulte de lui faire servir, ainsi qu'à son cortège, pain blanc, vin, dragées, pommes et oublis. Les oublis, ce sont des gaufres. Pourquoi d'ailleurs ne ferait-on pas un Noyon comme à Reims, où le chanoine Bouteille a institué le rituel des casse-gueules ou casse-museaux ? De délicieux gâteaux qui doivent être jetés à la figure de ceux qui en réclament. Oh, manifestement, on s'amuse bien plus à Reims qu'à Noyon. Jamais à Noyon, on ne vit pareille folie. Cette année, c'est le petit géant Roger qui est finalement élu. Le voilà qui revêt les habits trop grands pour lui de son évêque. Mais quel honneur et quel bonheur pour un humble petit chrétien d'être l'évêque du jour. C'est la fin de l'office. Jehan Roger, après avoir rehaussé sa mitre qui lui tombe au-dessous du nez, lève la crosse pour donner la bénédiction à ses fidèles. La fête touche à son terme, il est temps de sonner le carillon. Après quoi, les chanoines, les vrais cette fois les adultes, iront chercher l'évêque, le vrai, et le ramèneront en procession dans son église. Tous ces bambins, faux moines et faux évêques voient les derniers feux de la fête des fous telle qu'elle est célébrée depuis toujours dans leur ville. Mais à partir du 11 décembre 1566, il sera finalement décidé que s'ils conservent leurs privilèges, ils seront désormais privés de leurs apparats. On ne donnera plus à l'évêque ni mitre ni crosse et il ne pourra plus donner de bénédiction épiscopale. « À l'injustice !» s'écrient les enfants. « Oui, il y a eu des débordements, mais tous n'ont pas été le fait de l'évêque des innocents. Le même jour, on célébrait aussi la fête des fous. C'est un grand préjudice pour la fête des innocents qu'au Saint-Siège, on confonde les deux traditions. Les débordements licencieux, obscènes, n'ont été en aucun cas le fait des enfants. » Ceux qui s'évertuent à faire disparaître ces fêtes ont oublié l'adage « Vox populi, vox Dei », la voix du peuple et la voix de Dieu. La fête des fous et la fête des innocents sont à peine montrées du doigt qu'une nouvelle fête, restée jusque-là dans l'ombre, arrive sur le devant de la scène. Il s'agit de la fête de l'âne. Après les adultes et les enfants, voici que les animaux prennent part à leur tour au carnaval. Les fous, précédés de leur abbé, sont déjà sortis de l'église, remplacés par l'évêque des innocents. Celui-ci a à peine fini d'officier qu'un groupe de paroissiens fait son entrée, entourant un âne richement paré. L'église ne peut s'offusquer qu'on fasse entrer dans la maison de Dieu des animaux véritables. Innocents du péché des hommes, ils louent Dieu à leur manière. Et puis, l'âne n'est-il pas l'un des deux animaux veillant dans la crèche sur l'enfant Jésus lors de sa naissance ? Pour forcer le trait et obliger ces austères prélats à accepter la provocation, on explique que cet âne est celui qui porta Joseph, Marie et l'enfant Jésus lors de leur fuite en Égypte. Alors à Noyon, on fait chevaucher l'âne par une jeune fille recouverte d'une chape d'or tenant un enfant dans ses bras. Et dans le sanctuaire, chaque chant est ponctué par un « hi-han » de l'officiant, auquel répond la foule de la même manière. Aux yeux des fidèles, la présence d'animaux dans l'église est chose parfaitement normale. Chaque année depuis des siècles, la Saint-Hubert est l'occasion pour les chasseurs de faire bénir devant l'autel leur meute de chiens et leurs faucons. L'église résonne alors du son des cors de chasse, auquel répond le sifflement des faucons et l'aboiement des chiens. Ces chants, ces musiques et ces cris d'animaux sont d'ailleurs pour la plupart des fidèles plus compréhensibles que le latin auquel ils ne comprennent rien. L'âne, une fois entré solennellement dans l'église, on le conduit devant l'autel comme s'il allait participer à la messe. On le mène ensuite à côté du prêtre qui lit l'Évangile. C'est l'instant de lire la prose de l'âne, un poème en latin ponctué de cette exclamation « Eh, sire âne, eh !» Étonnante sagesse populaire qui perpétue à son insu des refrains venus de la nuit des temps. Car cette exclamation « Eh, sire âne, eh !» est comme l'écho de l'invocation à Bacchus des Athéniens du VIe siècle avant Jésus-Christ. « Évoé, Bacchus, évoé !» que les populations de la Grèce antique entendaient par les rues de la cité lors des fêtes qui avaient lieu, elles aussi, en février. Durant près de 1000 ans, du 7e siècle au début du 18e siècle, la fête de l'âne perdure, avec parfois des restes de la fête des fous, comme à Autun, à Beauvais, à Sens, où les deux se confondent dès le 15e siècle.
La fête des fous amène un âne en chasuble au milieu de l'office. Et le chant traditionnel « Eh, sire âne, eh !» est entonné par des clercs vêtus d'habits grotesques. Ce jour-là, les encensements se font avec du boudin et des saucisses. Il est clair que le refrain « Eh, sire âne, eh !» remplaçant l'évoé païen et l'amen catholique, a été compris par les fidèles comme une invitation à braire sur tous les tons.
Que l'on supprime ces festivités, et elles réapparaissent invariablement, obstinément, sous des formes sans doute moins provocantes. Ainsi la fête de l'épinette à Lille, celle de la mère folle à Dijon, celle du prince amour à Tournai, du prince de la jeunesse à Soissons, celle des caritas à Béziers, celle de la fête Dieu à Aix. Dès la Renaissance, des associations de laïcs reprennent le flambeau de ces fêtes supprimées par l'Église. Les mises en scène s'affinent et les festivités qui, dans l'ordre religieux, devaient ne durer qu'une semaine, deviennent perpétuelles. Il en est ainsi pour le fameux abbé des Cornards. Il avait auparavant ses entrées dans l'Église. Dès le XVIe siècle, sa juridiction s'étend partout, sauf dans l'Église.
Il monte un âne coiffé d'un coqueluchon vert à houppe, brandissant sa marotte comme un sceptre, entouré de sa cour cornardisante qui chante une antienne farcie en mémoire de la fête de l'âne.
Paradoxalement, c'est la Révolution qui, à Noyon comme partout ailleurs, va mettre un terme définitif à ces fêtes pourtant marquées du sceau de l'irreligion. Le clergé catholique, décapité lors des massacres de septembre 1792, se voit privé de ses prêtres, mais aussi de ses histrions. Les révolutionnaires, qui ne pouvaient pourtant abdiquer si facilement 1000 ans de carnaval, s'offrent une fête sur mesure, appelée « fête de l'égalité », durant laquelle ils vont pousser la parodie à son comble. Et sous les voûtes des églises de Paris, en lieu et place des braiements de l'âne ou des couplets grivois de l'abbé des Cornards qui provoquaient sciemment Dieu à la colère, vont résonner 5 années durant les carmagnoles et les blasphèmes adressés par des poissardes et des sans-culottes à un Dieu auquel ils ne croient plus. C'est la fin de ce double épisode consacré à la fête des fous. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook « Au cœur de l'histoire ». Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. « Au cœur de l'histoire » est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.